Maintenant, je vous propose qu'on boucle ce rendez-vous comme on l'a ouvert, c'est-à-dire qu'on revienne à cette affaire qui va mobiliser un premier héros, si je puis dire, un escroc de haute volée qui s'appelle Charles Ponzi et qui a fini d'ailleurs par laisser son nom en disant on parle de chaîne de Ponzi. C'est exactement ce qui était en acte, évidemment, par Bernard Madoff. Qui, alors, les chiffres que vous donnez, c'est vrai, c'est entre 10 et 65 milliards d'escroqueries, d'embrouilles en tout genre, qu'a fait ce financier véreux et qui a récolté 150 ans de prison. D'ailleurs, il y a une information qui court pour savoir, il avait postulé pour être l'économiste de la prison où il était, alors ils ont d'une certaine manière voté, il y en a un certain nombre qui ont voté en disant « il est tellement malin qu'il va nous avoir plus de cigarettes encore » et d'autres qui ont dit « on va surtout pas lui confier la cagnotte de la cantine parce qu'on va se faire avoir ». Bref, en tout cas, vous pouvez peut-être rappeler le principe et ensuite venir à cette question que vous posez qui est très intéressante et qui revient à ce que vous disiez au tout début, c'est-à-dire que bien sûr il y a des emboîtements logiques et mathématiques dans cette question, mais il y a aussi bien sûr des questions morales et en particulier vous posez la question avec le paramètre du temps, et j'anticipe mais je donne que ça, pour savoir si les caisses de retraite par exemple ne sont pas des sortes de chaîne de Ponzi bien organisée. Dans ce cas-là, ça, on comprend le titre que vous donnez à cette partie. Escroquerie ou jeu risqué ? Point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qui se passe avec une chaîne de Ponzi, en particulier sur sa base ? Alors, si on la voit comme une pyramide.
Le principe des chaînes de Ponzi ou des pyramides de Ponzi, d'abord, il n'a pas été inventé par Ponzi. Il porte son nom parce que c'était une des grandes escroqueries américaines du XXe siècle. Mais en fait, ça existait avant. Je crois que Edgar Poe en mentionne une dans une de ses nouvelles. Et ça a dû exister même avant encore.
Bon.
Donc, le principe est simple, c'est que vous promettez aux gens qui vous confient leur argent de leur donner 20% d'intérêt par an, par exemple, que vous ne pouvez pas vraiment leur donner, sauf si vous arrivez à convaincre d'autres gens de vous prêter leur argent, de vous confier leur argent, et à ce moment-là, vous paierez les intérêts de ceux qui voudront retirer leur argent avec l'argent qu'on vous prêtera.
Des nouveaux rentrants.
Enfin, les nouveaux rentrants, voilà.
Il faut toujours qu'il y ait une base qui se renouvelle. Quoi.
Voilà, alors il faut toujours qu'il y ait une base qui se renouvelle, et si vous arrivez à la maintenir, ou si vous arrivez à convaincre les gens qui vous confient leur argent de surtout pas le retirer, à ce moment-là, ça peut tenir très longtemps. Et le cas de Madoff est extraordinaire, puisque Madoff a tenu plus de 20 ans.
Avec cette malice supplémentaire, c'est qu'en plus, il donnait le sentiment aux gens dont il acceptait l'argent que c'était une grande faveur
dans le
club.
Voilà. Il fallait d'abord donner une somme minimale qui était, je crois, $1 million. On pouvait pas miser moins. Je parle de miser parce que c'est une sorte de jeu. Il avait aussi des conditions qui dissuadaient les gens de retirer leur argent trop vite. Ce qui évitait effectivement de se retrouver face au trou qu'il a fini par rencontrer au bout d'un certain temps. Alors, quand on modélise mathématiquement les pyramides de Ponzi, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on admet que les gens laissent leur argent une certaine durée, par exemple 3 ans, et que vous leur promettez 20% alors que vous ne pouvez placer qu'à 5%, eh bien le trou que vous avez dans votre caisse, il augmente, on dit, exponentiellement. Exponentiellement, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez de plus en plus de gens, mais le nombre que vous devez rajouter chaque année, il augmente lui-même. Donc d'une année à l'autre, vous devez trouver de plus en plus de gens. Et donc à un moment donné, inévitablement, une pyramide de Ponzi, on va dire standard, finit par casser.
S'effondre.
S'effondre. Oui. Et alors, il y a une question qui se pose. Quand Bernard Madoff a été repéré comme manipulant une chaîne de Ponzi, quel est l'argent qu'il a volé ? Parce qu'on a cité le chiffre de 65 milliards, mais regardez dans ses caisses, il n'y avait pas 65 milliards, et lui-même n'a jamais dépensé 65 milliards.
C'est ça. Alors, la question que vous posez, quel est le montant qu'il reste effectivement et qui n'est pas de l'argent fictif, et comment est-ce qu'on peut rembourser, et à quel titre,
et alors,
ceux qui se sont mis dans la combine.
Voilà. C'est un argent qui n'a jamais existé, d'une certaine façon, ne peut pas avoir été volé. Alors, je vais donner un exemple qui va illustrer l'idée. Voilà. Quelqu'un vient vous voir et vous propose un tableau, il vous dit « je vous le vends 1000 euros, mais je vous assure que demain, j'arriverai à le vendre 2000 euros et je vous le rachèterai à 2000 euros. » Et puis le lendemain, il ne vient pas vous voir et puis vous vous apercevez que le tableau est faux. Est-ce que vous avez perdu 1000 euros ou est-ce que vous avez perdu 2000 euros ? Vous avez espéré avoir 2000 euros, mais en fait, ils n'ont jamais existé, ces 2000 euros. Par contre, les 1000 euros que vous avez versés, eux, ils ont bien été, ils ont bien existé et vous les avez bien perdus. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec les pyramides de Ponzi. Et on ne peut donc pas, l'histoire de Madoff, on ne peut donc pas considérer que tout l'argent que les gens considèrent qu'on leur doit leur est véritablement dû. C'est les 2000 euros que je viens d'évoquer. Et il s'est produit des choses tout à fait étonnantes dans cette histoire. Il y a une certaine association, je ne sais plus le nom, qui avait déposé de l'argent chez Madoff. Elle avait déposé, je crois, c'était 35 millions de dollars.
Philanthropique, hein, je crois que c'était ça.
Une association philanthropique. Et elle en a retiré, je crois, plus de 90 millions. Parce que ça avait progressé, etc. Et puis à la fin, quand la pyramide de Madoff s'est écroulée, on lui devait encore, alors je vais dire n'importe quel chiffre, mais je crois que c'est 60 millions, quelque chose comme ça. Et donc, elle dit, mais je me suis fait voler 60 millions. Alors qu'en fait, elle avait déjà retiré plus qu'elle n'avait déposé.
Et, oui.
Et c'est bien ce qui se produit dans les chaînes de Ponzi. Les gens qui retirent leur argent suffisamment tôt, en fait, ce sont eux qui volent ceux qui ne l'ont pas retiré suffisamment tôt. Mais si la chose s'est produite il y a 10 ans, il y a 15 ans, la justice n'ira pas réclamer à ceux qui ont retiré leur argent il y a 15 ans. Et donc, en fait, dans le cas de Ponzi, il y a un tiers seulement de l'argent qui avait été déposé chez Charles Ponzi, qui a pu être redistribué une fois qu'on s'est aperçu qu'il avait, qu'il manipulait une chaîne de Ponzi, enfin ce qu'on a appelé une chaîne de Ponzi.
Oui. Et pour conclure, alors est-ce qu'on peut, là, parce que si on bouge le paramètre du temps, et si d'un seul coup on assimile à une pyramide de Ponzi une caisse de retraite, bon, si ça joue avec le temps, et au bout d'un moment, quelle peut être la limite? C'est qu'il y a une rupture dans le renouvellement des générations. C'est-à-dire qu'au départ...
Il y a des gens qui ont défendu l'idée que les caisses de retraite étaient des chaînes de Ponzi. Alors moi, je suis à moitié d'accord. Alors, c'est d'accord en un certain sens si on considère que à chaque instant, les retraites qui sont versées sont plus importantes que ce qui a été touché des gens qui reçoivent leur retraite. Et ça peut très bien fonctionner. Et je dis ça peut très bien fonctionner indéfiniment, à condition qu'il y ait un taux d'augmentation de la population qui soit constant. S'il y a un taux de 5%...
Un taux démographique constant.
Voilà. Si d'une génération à l'autre, il y a 10% de plus de gens à qui verser la retraite, ça peut très bien fonctionner. Donc une chaîne une chaîne de Ponzi de type caisse de retraite peut très bien fonctionner indéfiniment, à condition que la population croisse indéfiniment, puisqu'effectivement, l'exponentiel de la croissance de la population va correspondre à l'exponentiel des dettes que la caisse de retraite crée d'une génération à l'autre.
Si ça ne marche pas, alors ceux qui ont participé sont floués.
Alors maintenant, si tout d'un coup, on garde les mêmes règles pour redistribuer les retraites, mais que la population cesse de croître, à ce moment-là, on tombe dans le cas où la chaîne de Ponzi s'effondre. Mais dans la réalité politique, les choses sont plus compliquées. Si ça se produit, et c'est peut-être ce qui se produit en ce moment, on va diminuer les retraites, on va augmenter les cotisations, et puis finalement, la chaîne va pouvoir se remettre à flot et continuer à fonctionner. Oui. Donc, dans le cas des caisses de retraite, moi, je suis un peu réticent à parler vraiment de chaîne de Ponzi, dans la mesure où l'action politique, les sommes versées aux retraités et les sommes perçues par les actifs, on peut jouer dessus et donc éviter la chute de la...
Qu'on fasse les comptes. On pourrait utiliser comme conclusion rapide, puisque malheureusement le temps a tourné très vite, c'est de savoir exactement au moment où... En 2008, les banques connaissent un fiasco absolument considérable, que ce sont les États qui les renflouent.
Oui.
Que s'ensuit-il, quoi, à l'issue de ça, hein? C'est-à-dire, dans quelle situation exactement ils se retrouvent?
Il y a un chercheur qui s'est posé la question. Il y a deux questions qu'on peut se poser à propos du
l'argent de Ponzi. L'argent des États, c'est l'argent de tout le monde.
Oui, il y a deux questions amusantes qu'on peut se poser à propos d'une chaîne de Ponzi.
Allez.
Je sais que c'est une chaîne de Ponzi. Est-ce que j'ai intérêt à y mettre mon argent? Alors, si... Je peux avoir une analyse suffisamment précise de l'état de la chaîne et que je sais qu'elle va en tenir au moins encore 2 ans, ben je peux la mettre pour 1 an puis la retirer au bout d'un an.
Oui.
C'est tout à fait rationnel, il n'y a rien à dire. Ça peut être une chaîne de Ponzi, j'ai beau le savoir, je peux jouer dessus. Mais là, il y a un chercheur qui s'est posé une autre question encore plus étonnante, c'est je sais que je suis dans le dernier round, c'est-à-dire je suis dans la dernière année de la chaîne de Ponzi, est-ce que je peux avoir intérêt à mettre mon argent? Alors on a envie de dire non.
Folie, oui.
C'est de la folie. Alors lui, il dit, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si les États acceptent d'indemniser les gens qui ont mis leur argent dans la chaîne de Ponzi lors du dernier round, on peut très bien accepter soi-même de mettre son argent dans la chaîne du dernier round. Ce sont les autres, ceux qui n'ont pas joué, qui vont payer et qui vont vous faire que votre investissement aura quand même été profitable. Et c'est là que la comparaison avec les banques et la crise de 2008 est tout à fait valide, parce que c'est d'une certaine façon ce qui s'est passé.
Et ben voilà, on est au terme de ce rendez-vous avec Jean-Paul Delahaye autour de cet ouvrage intitulé « La logique » avec comme sous-titre « Un aiguillon pour la pensée ». L'ensemble, bien sûr, édité aux éditions Belin. Et je rappelle qu'on peut lire chaque mois dans « Pour la science », dans chacune des livraisons de « Pour la science », les différents articles de Jean-Paul Delahaye. Merci d'être passé.
Merci.